Monsieur Pizza.
Manger politique, c'est l'émission animée par la Caisse alimentaire commune de Montpellier.
Putain, j'ai piqueté tellement de membres de ta famille.
Pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire.
Et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat.
Le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel.
Des mangeurs, des mangeuses, des chercheurs, des chercheuses, des paysans et des paysannes, et des militants et militantes.
Comment as-tu fêté ça ?
J'en mange plus encore.
On leur donne la parole pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans Manger politique, l'émission animée par la Caisse alimentaire commune sur Divergence FM. Manger politique, c'est l'émission qui parle de démocratie alimentaire, d'alimentation durable et de la nécessité pour nous de reprendre en main notre alimentation pour transformer notre système alimentaire. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler des clichés qui entourent l'alimentation. Typiquement, on l'a tous déjà entendu, c'est « les pauvres, ils savent pas manger ». La bonne alimentation, en fait, c'est celle des riches, c'est celle des blancs, c'est ce genre de cliché-là. Pour parler de tout ça avec nous, on a invité Nora Boisouni. Nora, elle est journaliste, elle est autrice, elle a écrit 3 bouquins. Elle a écrit « Sexisme et féminisme », qui sont plutôt dédiés aux inégalités de genre liées à l'alimentation. Et son dernier bouquin, « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette », qui parle des inégalités sociales entourant l'alimentation. Du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire un petit exercice lors de notre dernière réunion du comité citoyen, d'inviter les membres à nous parler des clichés qui, pour eux, persistent autour de l'alimentation. Et on a choisi d'y faire réagir Nora pour enclencher un petit peu la discussion. Du coup, les clichés qui sont pas mal revenus, c'est ben, les pauvres, ils sont gros parce qu'ils mangent mal. Les pauvres, ils donnent des chips à leurs enfants pour le goûter. Donc ça rejoint un petit peu celui d'avant. Et les pauvres, ils s'en foutent de manger bio parce que de toute façon, c'est un truc de bobo et c'est un truc de blanc. Du coup, bonjour Nora. Et bonjour. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de dire là ?
Bah, ce qui est intéressant avec les clichés que tu viens d'énoncer et qui ont été soumis par le comité citoyen, déjà, il y a une première chose, c'est l'idée qu'on va scruter les assiettes des personnes en situation de précarité ou les personnes pauvres. Bien davantage qu'on va scruter celle des personnes riches, des personnes favorisées. Donc il y a déjà une forme de domination, puisqu'on va estimer qu'il faut surveiller ce que mangent les pauvres. Et puis il y a une forme d'infantilisation aussi des classes populaires et des classes défavorisées. On va essayer non seulement de surveiller, mais de contrôler ce qu'elles mangent. Tout comme il y a cette idée reçue, ce stéréotype extrêmement classiste, qui serait que oh là là, les pauvres, ils ne savent pas gérer un budget. Alors ça, on l'a dans la bouche des députés, des ministres, on l'a dans la bouche de gens qui n'ont jamais eu à gérer un budget de 600 euros par mois, c'est plutôt un zéro en plus qu'il faut ajouter, de gens qui n'ont jamais eu à affronter un frigo vide, à devoir dire non à leurs enfants, à devoir sauter un repas pour pouvoir manger une fois au moins dans la journée. Donc il y a vraiment ces deux phases de surveillance et de contrôle, et puis aussi de contrôle en disant « mais on va vous obliger à manger ce que nous on estime être bon pour vous ». Tout comme il y a un bon goût qui est le goût des classes privilégiées, il y aurait un bon goût en termes de régime alimentaire aussi. Donc quand on entend les pauvres donnent à manger des chips à leurs enfants pour le goûter, bah, les riches aussi, sauf que personne ne va le reprocher aux riches. En revanche, on va le reprocher aux pauvres. La question de la grosseur aussi, elle est très intéressante, très importante, puisque premièrement déjà, on associe toujours la santé à la silhouette. Ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'on ne peut pas présumer de la santé de quelqu'un en regardant sa corpulence, ni en regardant un chiffre sur la balance. Et puis on se dit, bah, les personnes grosses, c'est forcément qu'elles mangent mal, encore un cliché, un énième cliché, parce que quand on est mince, a priori, on mange pas mal, bah, j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire.
Merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, parce que je m'étais noté quelques relances, et en fait, tu as un petit peu abordé tous ces points-là, et du coup, c'est pour t'inviter à les développer. Donc, tu parles un petit peu de normes, du fait que l'alimentation des riches, c'est l'alimentation principale, recommandée, etc. En tout cas, elle est perçue comme telle, et du coup, il faudrait que les pauvres s'y conforment. Est-ce que tu peux développer un peu sur cette question de normes alimentaires, de normes de la classe dominante qui est vue comme devant s'imposer, en fait, aux autres, aux classes populaires?
Bah, c'est justement ce que je soulevais avec l'idée de bon goût. Donc le bon goût, ce serait un goût. Alors le bon goût, comme écrivait le sociologue Pierre Bourdieu, dans un ouvrage qui s'appelle La distinction, où il développe vraiment cette thèse sur comment on se distingue les uns des autres, les classes populaires, comment on distingue les classes dominantes des classes populaires, comment on se distingue. Et lui, il a une phrase qui est le bon goût, c'est le dégoût du goût des autres. Donc le bon goût, c'est arbitraire. Le bon goût, ce n'est pas toujours été le même, mais le bon goût, il est défini par les classes dominantes. Et il est défini en opposition aux préférences des classes populaires, que ce soit en termes de décoration, de vêtements, d'émissions de télé, de films, de musique et d'alimentation aussi. Donc il y a cette idée que, puisque ce sont les classes dominantes qui déterminent ce qui serait le bon goût, tout le monde devrait s'y conformer. Et ceux qui ne s'y conforment pas sont stigmatisés, et ceux qui ne s'y conforment pas doivent sans arrêt justifier pourquoi ils ne s'y conforment pas. Donc on va toujours chercher à détourner, à débunker les arguments des classes populaires pour leur dire « mais si, si, en fait, quand on veut, on peut ». Donc c'est pour ça qu'on entend encore tout le temps et que je me bats contre cette idée reçue qui est très grave et très dangereuse, qui est que bien manger, ça coûterait pas cher. Bah si, bien manger, ça coûte cher. Alors déjà, il faut définir bien manger. Il faut définir coût de cher, il faut définir ce qu'on met comme coût dans le fait de cuisiner maison, de cuisiner frais, d'acheter des fruits et des légumes, de pouvoir les cuisiner. Donc il n'y a pas qu'une question de coût financier. J'en parle dans Manger les riches. Donc c'est aussi une question de se mettre à la place de l'autre. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des aliments qui ont changé de statut à travers l'histoire. Par exemple, la viande et les légumes. La viande, ça a été pendant très 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 longtemps... une manière de montrer qu'on avait de l'argent, du pouvoir, parce que la viande, ça coûte cher, et puis que les paysans en France ne mangeaient pas du tout de la viande à tous les repas. La viande, en revanche, était omniprésente sur les tables des banquets, des aristocrates, de la noblesse, des classes dominantes, que ce soit aussi l'Église. Et donc, c'était une manière de montrer, de démontrer qu'on avait du pouvoir et de l'argent. Aujourd'hui, ce serait plutôt les légumes. Les légumes, qui n'étaient pas une manière de montrer qu'on avait de l'argent et du pouvoir, hein, au contraire, c'était les paysans qui mangeaient les légumes, souvent leur propre production. Bah, aujourd'hui, le légume, il a un statut de classe sociale plus élevée. On sait d'ailleurs, dans les consommations alimentaires, que ce sont les classes les plus diplômées, par exemple, et souvent, ce sont celles qui ont le plus de revenus, qui mangent le plus de fruits et de légumes, pour plein de raisons, notamment aussi parce que les fruits et légumes, ça coûte très cher. Hein, c'est ce qui a vraiment pris depuis 50 ans au niveau inflation, c'est une catastrophe. Beaucoup plus que les autres familles d'aliments. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de dogme, comme il y en a toujours eu, hein, mais il y a encore un dogme qui dit qu'il faudrait faire comme la classe dominante, les classes dominantes, il faudrait s'habiller comme eux, il faudrait écouter la même musique qu'eux, aller dans les mêmes endroits qu'eux en vacances, il faudrait imiter leur mode de vie, et ça passe par une alimentation, certaines marques et certains produits, quoi.
Ouais. Tout en, donc il faudrait que les classes populaires adoptent complètement les classes, enfin les normes de la classe dominante, tout en rendant en fait tous ces comportements d'achat, ces comportements alimentaires absolument inaccessibles en vrai aux classes populaires pour des questions de coût, de temps.
Oui, parce que la distinction, elle peut plus se faire sinon. De toute façon, il y aura toujours une manière de distinguer, même si demain la bio, par exemple, était accessible à tous, il y aurait toujours une manière de se distinguer, même quand on parle vraiment d'un point de vue alimentaire seulement, de pratique alimentaire. Rien que le fait d'aller au restaurant, par exemple, c'est une manière de se distinguer. C'est pas la même chose que d'aller faire les courses. Donc ce bon goût, ces normes alimentaires, elles permettent de distinguer, mais elles permettent surtout de marginaliser, de stigmatiser des pratiques alimentaires de gens qui souvent n'ont pas le choix que de faire ce qu'elles font déjà, quoi.
Carrément. Et tu parles dans ton livre, là on a parlé donc de ces normes qui sont différentes d'une classe à l'autre, et il faudrait que les classes populaires adoptent les classes, les normes de la classe dominante, sans qu'elles puissent vraiment y arriver, même si elles y arrivaient ce serait pas pareil, et ça justement tu développes ça dans ton bouquin, et tu parles de comment il peut y avoir des différences de perception énormes pour un même comportement. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus?
Oui, alors moi, ça m'a beaucoup marqué sur deux types de produits, d'aliments, le vin et la fast-food, le vin et les burgers, par exemple. Il y a aussi des différences. Un burger à 4,50 €, ce n'est pas un burger à 25 €. Une bouteille de vin nature à 24 €, ce n'est pas une bouteille de piquette, comme on dit, de supermarché à 3,50 €. En France, il y a beaucoup de vin qui coûte très, très peu cher. Donc il y a déjà aussi ce niveau de gamme en fait qui permet aussi d'identifier et de stigmatiser les personnes qui les consomment. Donc par exemple, vous avez quelqu'un de parisien qui vit dans un arrondissement un peu cool, qui a un métier intellectuel, qui avait sur Instagram en mettant les photos de toutes les bouteilles de vin nature qu'il va boire en un week-end. Donc on va avoir une photo avec des cadavres de bouteilles. Il va y en avoir 5, et puis le commentaire, ça va être « Ah oh là là, on s'est mis bien ce week-end, super !» Et ça va être que du vin nature. Et donc tout le monde va applaudir, mettre des likes en disant « Oh là là, c'est génial, je reconnais, c'est machin, c'est une petite vigneronne dans la Loire, c'est machin, c'est de la biodynamie dans le Rhône. Bon. » Donc tout le monde va trouver ça super et va valoriser cette consommation. En revanche, si vous mettez un ouvrier du bâtiment qui va aligner des bouteilles à 4 euros en disant « Ah bah on a fait la fête avec les copains ce week-end », va y avoir un jugement de valeur de l'autre côté. C'est-à-dire que les classes dominantes, ou les gens plus privilégiés, ou les gens plus diplômés, ou les gens avec des métiers intellectuels par exemple, ou dans la culture, vont juger cette consommation, alors que le taux d'alcool va être le même, ça reste du vin, ça reste délétère pour la santé. En revanche, c'est vraiment le symbole qui est différent, c'est ce qu'on met nous derrière ce produit, et surtout c'est ce qu'on met derrière la consommation par des classes soit favorisées, soit défavorisées. Donc on va se dire, ah bah d'accord, ce mec il est alcoolique en fait, et puis c'est pas bon pour sa santé, alors que le vin ça reste du vin. Et puis sur les burgers, ça va être la même chose. Vous pouvez aller dire, bah tiens, moi je vais aller, je suis journaliste, je vais aller faire un comparatif des. Je vais trouver le meilleur smash burger de Paris. Donc je vais aller me faire une semaine où je vais manger un burger par jour pour après faire un top 7 des meilleurs burgers de Paris. Et tout le monde va trouver ça génial, hein. Ça va être sur des sites un peu cool, ça va être partagé en story, tout le monde va dire « Ah, c'est super, merci beaucoup ». Puis une personne qui n'a pas les moyens, qui va aller dire « Bah moi, je vais aller trouver le meilleur burger de fast-food, ou bien je vais juste me faire une semaine où je vais manger un burger par jour parce que soit j'ai envie, soit j'ai pas les moyens, et puis il faut bien remplir le ventre ». Et ben là, on va dire « Oh là là, mais pour sa santé, c'est vraiment nul. Oh là là, c'est pauvre, ils savent pas manger, ils savent pas ce qui est bon pour eux, ils savent pas ce qui est mauvais pour eux ». Donc on va tout de suite avoir un jugement de valeur, mais c'est aussi pour ça que les critiques culinaires ne sont pas jugés de la même manière que des gens qui mangent beaucoup, qui mangent gras, qui mangent salé, alors que manger au restaurant tous les jours, c'est délétère pour la santé, hein, on le sait. Mais il y a un jugement esthétique, et c'est ça qui est différent aussi. Dès lors qu'il y a un jugement esthétique, ça change tout, on a le droit. Donc il y a une forme d'autorisation qui se pose là quand quelqu'un a un comportement alimentaire qui, en réalité, pour sa santé, est délétère, mais dès lors qu'il y a un supplément, un peu un supplément esthétique, on se dit que c'est pour la bonne cause. La bonne cause, c'est quoi? C'est pour guider les classes dominantes dans des, entre guillemets, bonnes pratiques. Et je mets des guillemets comme je mets des guillemets à bon goût. Et puis c'est pareil aussi quand on consomme des choses délétères pour la santé, si elles sont consommées en trop grande quantité, si on est gros ou si on est mince. Même chose, hein, une personne grosse qui va manger un burger frite, on sait très bien les regards, voire les remarques qu'elle va subir. Alors qu'une personne mince qui mange ça ne va subir aucune espèce de remarque, hein, parce qu'il y a toujours cette idée que les personnes minces et ou les personnes qui ont de l'argent seraient finalement intrinsèquement vertueuses, alors que les personnes grosses ou les personnes pauvres auront une espèce de vice morale. C'est aussi pour ça, peut-être qu'on en reparlera, mais que la gourmandise, j'écris que c'est vraiment l'apanage des riches, c'est quelque chose qui est réservé aux classes dominantes, quoi.
Oui, justement, est-ce que tu peux parler un petit peu, tu l'évoques dans le livre, de la notion de petit plaisir? Tu sais, les bonbons, en fait, aux caisses quand tu sors du supermarché.
Bah, en fait, quand j'ai écrit le livre, je suis tombée sur l'interview d'une sociologue, donc là, j'ai oublié le nom, parce que je suis nulle, j'ai pas de mémoire, mais elle est citée dans le livre, où elle a mené donc des enquêtes sur le terrain, elle a interviewé des familles, notamment des mères de famille, et elle a écrit quelque chose qui, moi, m'avait jamais, auquel j'avais jamais pensé avant de lire son interview. Et ses recherches, ses travaux, elle dit qu'en fait, la gourmandise, c'est un plaisir instantané qui coûte pas cher. Parce que quand vous achetez une barre Twix, quand vous achetez un paquet de bonbons, quand vous achetez un Kinder Surprise, que ce soit à vous ou à vos enfants, c'est une gratification immédiate, c'est un plaisir immédiat qui coûte pas cher. C'est vrai, ça coûte 1 euro, 2 euros, bon, bah voilà. Donc il y a déjà ça, c'est une manière de se faire plaisir. Ensuite, c'est une manière de se faire plaisir pas cher dans une vie où on se fait rarement plaisir, quand on est vraiment à 1 euro près, quand on ne peut pas partir en vacances, quand on ne peut pas avoir de loisirs comme le cinéma par exemple, ou aller voir un concert, ou aller voir un match de foot, quand on ne peut pas avoir accès à la culture comme on aimerait peut-être, aller dans un musée, comme on ne peut pas acheter de vêtements comme on voudrait parce qu'il faut les remplacer, ou juste parce qu'on a envie d'avoir des jolis vêtements à la mode. Donc, ou acheter des bouquins, ou acheter. Voilà. Donc, en fait, quand on ne peut pas participer à la société de consommation, que ce soit par besoin ou par loisir, eh ben, y a des choses qui sont assez simples d'accès et assez peu chères finalement et qui font plaisir tout de suite. Et enfin, elle, justement, là où c'est très intéressant, c'est qu'elle parle de famille et elle dit dans les familles pauvres, où finalement les parents disent très souvent non à leurs enfants, eh bien, en fait, ça fait plaisir de pouvoir leur dire oui de temps en temps. On se sent pas un mauvais parent quand on peut enfin dire oui, on sent qu'on fait plaisir à ses enfants. Et d'ailleurs, elle souligne que dans les familles riches, quand on dit non aux enfants, on leur dit non pour des, en parlant d'alimentation, pour des produits qui sont, entre guillemets, pas très bons pour la santé. Je mets des guillemets parce que moi, j'ai envie de diaboliser aucun produit, aucun aliment. Mais c'est vrai que les parents vont dire non pour des bonbons, des chips, des choses grasses, des choses sucrées, etc. Alors que pour les choses plutôt saines, ils vont pousser les enfants à en manger, quoi. Dans les familles qui sont un peu plus défavorisées, on sait que pour faire plaisir, justement, on dit oui à ces choses qui font plaisir au papy, au cerveau et au corps, qui réchauffent et qui donnent un peu de joie, quoi. Donc la gourmandise, elle est réservée aux riches aussi, parce que justement, ce que je disais, c'est que les riches ayant une espèce de présomption de vertu morale et de bonne santé, et de bon goût, et de pratiques normatives, et donc qui seraient les bonnes pratiques, bien on se dit qu'en fait, ils ont le droit un peu de faire quelques excès, ce qu'on appelle les petits plaisirs coupables, parce qu'on se dit « Ah bah oui, mais cette personne, je suis sûre qu'elle mange très sainement tous les jours, je suis sûre qu'elle fait à manger tous les jours, qu'elle mange bio, qu'elle fait attention, comme on dit. » Et donc, on se dit « Bah, c'est pas grave, cette personne riche, je vais acheter un pot de Nutella, des chips, bah oui, c'est un petit plaisir, quoi, elle a le droit. » En fait, il y a encore une fois cette forme de tolérance, d'autorisation qu'on donne aux riches par pur classisme, un mépris de classe. En revanche, présomption d'ignorance, présomption d'incompétence, présomption de mauvaise santé et de mauvaise alimentation vis-à-vis des classes populaires. Donc on présume que ces personnes ne mangent pas, entre guillemets, bien au quotidien. Donc on leur refuse de se faire un petit kiff en bouffant une tartine de Nutella, en se délectant d'une tablette de chocolat. Et on l'a vu, par exemple, avec les émeutes du Nutella, hein, quand il y a un supermarché il y a quelques années qui a fait des énormes promotions sur le Nutella, il y a eu un déferlement de mépris de classe dans la presse et sur les réseaux sociaux qui comparait les personnes qui venaient acheter du Nutella, qui effectivement se ruaient sur le Nutella, il n'y a pas d'autre mot, hein, il y a eu des scènes un peu violentes, hein, on ne va pas faire semblant. Mais il faut comprendre aussi que le Nutella, c'est un luxe pour beaucoup de gens. Mais donc il y a eu des phrases abominables hein, qui comparaient ces personnes-là à des animaux, qui les déshumanisait, qui les animalisait et qui en plus leur faisait porter la responsabilité de l'huile de palme. Il y avait vraiment des phrases comme « Ah là, c'est pauvre et en plus ils déforestent ». Ah bah non, c'est Ferrero qui déforeste, c'est pas les pauvres. Donc vraiment, on a une accumulation de responsabilisation des classes populaires parce qu'on présume encore une fois qu'elles font mal les choses, quoi.
Oui, je me souviens de ces images-là et il y avait une rhétorique aussi complètement raciste quand il parlait... Là, tu disais qu'ils étaient animalisés. En fait, ces personnes-là, c'était aussi beaucoup de personnes racisées. Et donc, c'était aussi jouer sur ce cliché-là et cette animalisation des personnes racisées qui est vieille au moins du 19e siècle, quoi.
Oui, oui. Bah, après, sur ces images-là, c'est dur de... Je pense que les personnes qui faisaient ces commentaires déshumanisants, c'était principalement parce qu'eux voyaient une masse grouillante de pauvres. Donc moi, j'ai pas vu de commentaires racistes, mais j'ai vu, enfin, en tout cas ouvertement racistes, disons. J'ai vu des commentaires déjà déshumanisants parce que aussi on présume que parmi tous ces gens qui achetaient du Nutella à prix cassé, on présume qu'il n'y avait que des pauvres. Mais on ne sait pas si c'est vrai, déjà. Donc c'est drôle parce que peut-être que parmi tous ces gens qui se battaient, entre guillemets, parce que oui, il y a eu des scènes de violence pour du Nutella, il y avait des classes moyennes. Bah ça on le sait pas, mais comme j'écris dans le livre, le jour où la maison du caviar fera des promos à prix cassé en baissant à 80% le caviar, moi je suis sûre qu'il y aura des scènes d'émeutes de riches, mais est-ce que les médias vont en parler comme ils ont parlé des classes a priori populaires qui se battaient pour du Nutella? Je ne suis pas sûre, parce que le caviar ça n'est pas du Nutella, alors que le caviar c'est hyper salé, hein. Donc pour la santé c'est pas terrible non plus. Hein.
Je pense que sur la partie interview, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'on peut... tu nous as pas mal parlé du coup des clichés et des normes en fonction de la classe sociale, un petit peu aussi en fonction de la morphologie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des normes de genre que tu as plus développées dans tes premiers bouquins? Ce serait intéressant d'en parler.
Oui, alors là aussi, il y a quelque chose de très essentialisant, très naturalisant. Hein. On part du principe que le genre devrait déterminer les goûts. Donc il y a par exemple le mythe qui perdure, on le voit encore très bien et on le voit aussi... chaque élection, avec la manière dont les candidats, je dis candidats au masculin exprès, hein, dont les candidats instrumentalisent certains produits alimentaires pour produire un discours réactionnaire, rétrograde, masculiniste, misogyne, raciste, et donc notamment la viande. Donc aujourd'hui, il y a encore un mythe qui persiste, qui serait que les hommes cisgenres auraient besoin de manger davantage de viande que les femmes cisgenres. Alors c'est un mythe, hein, ça n'a aucun fondement scientifique, c'est faux, c'est même carrément faux. Les hommes n'ont pas du tout besoin de manger plus de viande, ils n'ont pas non plus besoin de manger plus de protéines. En revanche, à corpulence égale, taille égale, activité physique égale, etc. Donc vraiment à deux personnes de genres différents égales, c'est compliqué déjà de comparer. L'homme a besoin de manger plus de calories. Ça n'a rien à voir avec de la viande ou de la protéine, les calories. Donc il y a par exemple ce mythe-là, donc il y a l'idée que les femmes aimeraient naturellement moins la viande, aimeraient naturellement moins l'alcool, par exemple. On voit bien hein, quand on va au restaurant, on mange à l'extérieur et qu'il y a les hommes, des femmes à table. On a encore aujourd'hui hein, en France et ailleurs des serveurs serveuses qui servent automatiquement la bière devant le nez du gars et la fille, elle se retrouve avec le verre de rosé, le cocktail alors qu'elle veut juste une pinte. Idem avec les salades et avec le steak. Et puis soi-même, on se met des barrières aussi. Hein, on se dit ah là là, qu'est-ce que va penser la personne en face de moi ou les personnes autour de moi, moi en tant que femme. Si je commande un steak saignant avec des frites et de la mayo, si je prends un deuxième dessert, alors qu'il y a plein de mecs qui ne se posent pas du tout la question, puisque le stéréotype de genre ne sont pas dans ce sens-là. En revanche, ils vont dans l'autre sens. Hein. Dans mon bouquin, je parle pas mal des hommes qui sont végétariens ou véganes et qui sont montrés du doigt, raillés, insultés, donc qui subissent des insultes homophobes, souvent, dévirilisantes aussi, féminisantes aussi, parce qu'ils ont choisi de ne pas manger d'animaux morts. Et ça, c'est très intéressant aussi de voir les stratégies qui sont utilisées par ces hommes végétariens ou véganes pour essayer d'éviter d'être stigmatisés par leur choix de régime alimentaire et donc essayer de rationaliser ça pour pas passer pour des sensibles, c'est-à-dire des gonzesses, quoi, hein, finalement, dans le monde patriarcal dans lequel on vit. Être une femme, c'est dévalorisant et dévaloriser. Donc, il y a tout ça fait qu'on s'empêche aussi, on s'empêche de manger comme on aimerait manger. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres par rapport à mes livres et je me rappelle une fois une histoire d'entreprise, une grosse entreprise, et je faisais une conférence genre et alimentation, puis il y a une dame qui a pris la parole à la fin, visiblement émue, et c'était devant ses collègues, hein, donc c'est très courageux de sa part de le dire, et là elle a dit bah moi je voulais juste dire que j'en ai marre des remarques à la cantine. Elle disait j'en ai marre qu'à la cantine les collègues systématiquement font des remarques sur ce qu'on met dans l'assiette, et elle dit puis moi en plus bah, je suis rose, donc dès que je prends des frites j'ai des remarques. Et du coup, elle n'osait même plus prendre ce qu'elle avait envie de manger. Elle n'osait même plus rapporter des choses qu'elle faisait chez elle parce qu'elle avait peur qu'on juge sa manière de manger et de cuisiner. Donc, il y a vraiment ce poids social, hein, des injonctions, des stéréotypes. Il ne faut pas du tout sous-estimer le poids des stéréotypes de genre qui donnent lieu à des maladies, qui donnent lieu à des carences, par exemple. Hein. C'est vraiment pas moi. Je tiens souvent à rappeler que dans mes livres, je ne dis pas juste... c'est chiant de ne pas pouvoir manger des frites. Alors, c'est vraiment pas normal, déjà, de pouvoir manger comme on veut, ou ce qu'on veut. Mais en plus, c'est délétère pour la santé. On connaît ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, les TCA. TCA qui touchent principalement les femmes. Hein. On parle d'anorexie, par exemple, de boulimie anorexie, mais qui touchent aussi les hommes. Et par exemple, ce qui est intéressant pour revenir juste sur la classe sociale, hein, par exemple, dans les TCA, l'anorexie, donc, qui touche à plus de 80% les femmes, les jeunes femmes, premier lieu, et bien en fait on sait que la population principalement concernée sont les filles qui viennent de familles riches, de familles privilégiées, puisque la minceur est une norme sociale en vigueur, notamment chez les plus favorisés, les plus riches. Il est très mal vu d'être grosse ou gros ou d'avoir ce qu'on appelle entre guillemets du surpoids. Donc il y a une pression sociale qui s'effectue sur ces personnes-là, en fonction de la classe sociale aussi. Mais on parle tout à l'heure de racisme, évidemment, hein, plus on accumule des discriminations, plus on est jugé par rapport à ce qu'on mange, par rapport à son poids, puisqu'on va accumuler aussi des stéréotypes raciaux, hein, qui sont délétères quand ils s'accumulent avec des stéréotypes de classe ou de genre. Quoi. Mais effectivement, aujourd'hui, on a encore énormément de résistance, par exemple sur la consommation de viande, on sait que c'est les hommes qui en mangent beaucoup plus, et qu'il y a beaucoup de résistance, puisqu'en fait, on continue d'associer la viande à une forme de virilité, de puissance et de force, et on le voit avec Trump, hein. Beaucoup d'argumentaires mobilisés par rapport à la consommation de viande, par exemple.
Merci beaucoup, Nora. Et bien justement, on va rebondir là-dessus. Parce que je ne suis pas tout seul en fait en studio, je suis aussi avec Malika Belkodja, qui est membre du comité citoyen.
Bonjour, Nora.
Bonjour.
Et on voulait illustrer ça en fait parce que donc, dans le projet de caisse alimentaire commune, donc ce qu'on fait, pour petit rappel, le projet c'est une caisse, un budget commun. Ce budget, tout le monde, tous les participants et participantes, qui sont à peu près 350 à Montpellier, y cotisent tous les mois et reçoivent 100 € pour faire des achats alimentaires dans des commerces qui sont conventionnés, donc choisis sur des critères de qualité, de praticité, d'éthique, etc. Et en fait, ces préjugés là que tu nous as décrits, ces normes, le fait que en fonction de ton genre, de ta classe sociale perçue ou de ta race perçue en fait, les personnes qui peuvent fréquenter le magasin vont pas avoir les mêmes attentes et le même comportement avec toi. Et du coup, Malika va illustrer ça.
Oui, moi, évidemment, ça fait écho à mon expérience de mangeuse parce que tout d'abord, personne racisée, personne qui vit dans un lieu dit défavorisé, personne en situation de précarité. Donc, j'ai envie de dire, les préjugés, on l'a dans le dur, quoi. Mais après, je sais que des fois, j'ai fait face à des personnes indélicates qui croyaient bien faire, qui voulaient m'apporter leur aide sans savoir qui était Malika. Et eux, je leur pardonne, hein, l'erreur est humaine. Mais je me souviens d'une situation que j'ai dû souvent rappeler aux gens que non, je n'avais pas toujours vécu dans une cité. Non, je n'ai pas connu les légumes surgelés ou en boîte pas avant mes 18 ans. Que j'ai eu une maman, malgré sa classe sociale, qui avait à cœur de me faire à manger des bons petits plats, des bons légumes. Et ça, je sais que les personnes, eh ben, j'ai dû leur rappeler que j'étais quelqu'un avant d'arriver à ce super comité. Et qu'on ne se résume pas à ce qu'on est à l'instant T, quoi. Que cette personne a été quelqu'un avant et qu'elle a une histoire. Et que si on s'intéresse à elle, on peut en discuter avec elle parce que c'est ça l'échange, c'est ça le vivre ensemble. Après, il y a des choses auxquelles j'ai assisté. Ma première visite dans un supermarché de coopérateurs qui était vu comme un lieu fréquenté par les bobos. Moi, c'était un lieu que j'avais envie de découvrir avant, mais là, je suis tombée sur une personne qui, voulant bien faire, toute gentille, qui me dit « Alors, tu sais, les légumineuses, c'est... » Désolée, hein, je prends un petit ton un peu infantilisant, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Qui me dit « Les légumineuses, ça revient moins cher, hein, c'est bon pour la santé. » Sauf que cette personne, j'avais envie de lui dire, intérieurement, je me suis dit, hein, « Tu sais, moi, dans ma culture, les légumineuses, c'est quelque chose je ne découvre pas maintenant. » Donc, ça, c'est de l'indélicatesse. Et puis, des fois, j'ai assisté, et là, j'ai une personne à laquelle je pense, mais là, c'était encore plus flagrant parce qu'elle ne s'en est pas rendue compte. De dire, mais attendez, je fais partie du projet, je suis expérimentatrice, et quand je vais en caisse, que ces pauvres, ils prennent des chips et des cacahuètes, dis donc, moi, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. Ils savent pas manger ces salauds de pauvres, j'ai envie de dire. Voilà, donc forcément, ça fait écho à mon histoire, à l'histoire de plein de membres et de plein d'individus sur cette terre, quoi. Voilà.
Et ce que tu disais, Malika, désolé, je me permets de rajouter parce que tu me l'as dit au café juste avant, c'est que cette expérience-là, donc dans le supermarché coopératif, ça t'a empêché d'y retourner pendant un petit temps.
C'est
vrai. T'as refranchi la porte, mais au bout d'un moment.
C'est vrai, parce que, merci de me le rappeler, Kylian, je me souviens d'une réunion d'accueil qui était proposée à tous les nouveaux coopérateurs. Sauf que nous, membres du comité, on était dispensés du service et... Lors de la réunion, moi, j'entends réunion d'accueil, ça veut dire, sympa, on vous accueille. Sauf que là, c'était plus de la réunion d'accueil, je tombais sur... Alors là, on a le côté, au niveau cliché, un homme, une femme, sauf que l'homme a pris le dessus sur la femme et a été en mission. Je cherche des volontaires pour mon pôle jeunesse, donc déjà, moi, femme... pas jeune, et en fait, du moment où je lui ai dit, écoute, moi j'utilise la Mona, non, ça te concerne pas, en fait, il m'a complètement zappé. Et ça a été très violent, et j'avoue qu'au début, j'ai eu du mal à me dire, ben non, moi j'ai pas connu ça avec mes petits coopérateurs que je côtoie au comité, je sais qu'ils sont pas comme ça, et là, là on me rebalance ma situation. Donc,
voilà, donc là, avec ce que tu as développé Nora et avec les exemples donnés par Malika, on voit comment, alors que nous, notre mission, c'est, enfin la mission que, en tout cas qu'on se projette, on a envie de transformer le système alimentaire, on a envie que toutes et tous puissent accéder à une alimentation de qualité, soutenable pour la planète, pour notre santé, et surtout une alimentation qui est choisie. Et en fait, comment on va être souvent essentialisé, même dans des lieux qui sont... qui se veulent les plus ouverts possibles, qui sont progressistes avec des valeurs de gauche. Et c'est probablement des gens qui ne pensent pas à mal, mais en fait, tous les préjugés, toutes les normes dont a parlé Nora tout à l'heure, en fait, elles sont internalisées par les gens, par même des gens qui sont très bienveillants, et elles peuvent ressortir et être écharriées de la violence en fait, envers les personnes qui découvrent ces lieux et qui ne s'y sentent pas les bienvenus pour la première fois en tout cas. Voilà, donc ça nous montre un petit peu l'ampleur du boulot qu'on a à faire, si même dans nos milieux il y a ces préjugés-là, l'ampleur du boulot qu'on a à faire si on veut vraiment transformer le système alimentaire et transformer les mentalités. Voilà, c'était Manger Politique. Je remercie très très sincèrement et chaleureusement Nora Boisouni et Malika Belkodja du Comité Citoyen. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci.
Merci beaucoup.
Oh non, pas Monsieur Pizza!
Manger Politique, c'est l'émission animée par la Caisse Alimentaire Commune de Montpellier.
Putain, j'ai piqueté tellement de membres de ta famille!
Pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire.
Et j'y sens quelque chose qui n'est pas du chocolat.
Le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel.
Des mangeurs, des mangeuses, des chercheurs, des chercheuses, des paysans et des paysannes, et des militants et militantes.
Comment as-tu fêté ça?
J'en mange plus encore.
On leur donne la parole pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire.